Kairoua, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 10 août 2021. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, guerre en Éthiopie, le Premier ministre appelle à la mobilisation générale avec de nouveaux enrôlements dans les forces armées. Karim Khan, le nouveau procureur de la Cour pénale internationale, a débuté aujourd'hui sa première visite au Soudan. Au menu, les crimes commis au Darfour et le procès de l'ancien président Omar el-Béchir. En Algérie, des incendies ont provoqué la mort de 7 personnes en Kabylie. Ces incendies surviennent alors que le pays connaît une grave sécheresse. Les talibans s'emparent de la capitale provinciale de Baghlan, dans le nord de l'Afghanistan. C'est la 8e capitale provinciale afghane à tomber entre les mains des insurgés. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a appelé aujourd'hui tous les Éthiopiens aptes et majeurs à rejoindre les forces armées, alors que le conflit qui dure depuis 9 mois au Tigré s'est étendu ces dernières semaines à 2 régions voisines du nord du pays. Les précisions de Mohamedou Mfa.
C'est maintenant le moment pour tous les Éthiopiens aptes et majeurs de rejoindre les forces de défense, les forces spéciales et les milices et de montrer leur patriotisme, déclare dans un communiqué le bureau du Premier ministre. Débuté en novembre dernier, le conflit au Tigré connaît depuis fin juin un spectaculaire renversement de situation. Le 28 juin, les forces rebelles pro-TPLF ont repris Mekele puis une grande partie du Tigré les jours suivants. Le conflit s'est même étendu ces dernières semaines à 2 régions voisines, l'Afar et l'Amara. TPLF répète qu'il ne souhaite pas s'emparer de ces derniers territoires, mais qu'il veut faciliter l'accès pour l'aide humanitaire dans la région et éviter que les forces pro-gouvernementales ne se regroupent. Lundi, le PAM a affirmé que 300 000 personnes étaient désormais confrontées à des niveaux d'urgence alimentaire dans ces deux régions. Environ 400 000 personnes vivent dans des conditions de famine au Tigré, estime l'ONU. Les 9 mois de conflit ont fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de déplacés. La situation humanitaire y est désastreuse.
Le nouveau procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, débute ce mardi sa première visite à Khartoum. Selon la CPI, cette visite de M. Khan au Soudan durera une semaine. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
D'après l'agence Suna, le nouveau procureur général de la CPI, Karim Khan, discutera avec les autorités soudanaises des manières de consolider la coopération sur l'enquête menée par l'instance internationale sur les crimes commis au Darfour. Ce conflit a opposé à partir de 2003 le régime à majorité arabe de l'ex-président Omar el-Béchir à des insurgés issus de minorités ethniques. Il a fait environ 300 000 morts et près de 2,5 millions de déplacés, d'après les Nations Unies. Arrêté et jugé au Soudan après sa destitution en 2019, M. Béchir et d'autres figures de l'ancien régime sont recherchés par la CPI pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Reconnu coupable de corruption en décembre 2019, l'ancien président est actuellement détenu à la prison de Kobe à Khartoum. Il est parallèlement jugé pour son rôle présumé dans le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989. La semaine dernière, le cabinet ministériel soudanais a voté en faveur de la ratification du statut de Rome créant la CPI. Un accord historique a été conclu entre le gouvernement soudanais de transition et plusieurs groupes rebelles. Cet accord met l'accent sur la nécessité d'une coopération complète et illimitée avec la CPI.
La Somalie et le Kenya veulent relancer leurs relations bilatérales. Mogadiscio et Nairobi ont convenu ce mardi d'un nouveau départ à l'issue de discussions entre le président kenyan Uhuru Kenyatta et le premier ministre somalien Mohamed Hussein Roble, qui marque un dégel entre les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique. Les deux pays d'Afrique de l'Est qui partagent 700 km de frontières et sont en théorie alliés dans la lutte contre les islamistes Shebab nourrissent des relations tumultueuses. La Somalie a régulièrement accusé le Kenya d'ingérence, tandis que ce dernier a accusé Mogadiscio de chercher un bouc émissaire à ses problèmes internes. Les Zambiens sont appelés aux urnes jeudi pour la présidentielle. Le scrutin se joue à couteau tiré entre le président sortant Edgar Lungu, 64 ans, et son rival de toujours Hakainde Hichilema, 59 ans. Cette élection fait craindre des troubles dans le pays. Des violences sporadiques ont opposé les militants du Front patriotique, PF, au pouvoir à ceux du principal parti d'opposition, l'UPDN, incitant le président à déployer l'armée la semaine dernière, une décision dénoncée comme une tactique d'intimidation par l'opposition. Les autorités algériennes font état d'une cinquantaine d'incendies d'origine criminelle qui ont déjà fait 7 morts dans le nord du pays, notamment en Kabylie. Ces feux sont attisés par une forte canicule. Le point avec Abdourahman Dia.
Le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, qui a dressé un premier bilan, s'est rendu à Tizi Ouzou, l'une des villes les plus peuplées de Kabylie. Les équipes de la protection civile tentent d'éteindre 31 incendies dans 14 préfectures du nord du pays. 10 sont en cours à Tizi Ouzou. 50 départs de feu en même temps, c'est impossible. Ces incendies sont d'origine criminelle, a affirmé le ministre. La radio publique algérienne a annoncé mardi l'arrestation de 3 pyromanes à Médéa, toujours dans le nord, où un incendie s'est aussi déclaré. La météo ne joue pas en faveur des secouristes. Des vents propagent les feux et compliquent la tâche des secouristes, a précisé Youssef Ould Mohamed, le conservateur local des forêts. Ces incendies surviennent alors que l'Algérie connaît une période de chaleur marquée par une raréfaction de l'eau dans le pays. Les services météorologiques prévoient mardi des températures allant jusqu'à 46 degrés. Récemment, le président Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'élaboration d'un projet de loi punissant sévèrement les auteurs d'incendies criminels de forêt.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Sénat américain a largement approuvé aujourd'hui le plan colossal d'investissement dans les infrastructures voulu par le président Joe Biden d'un montant de 1 200 milliards de dollars, offrant un grand succès au président démocrate qui devra toutefois encore attendre le vote final à la Chambre basse pour clamer victoire. Ce projet historique, selon la Maison-Blanche, a été adopté par 69 voix contre 30 avec le soutien de plus d'un tiers des républicains. Un fait rare dans un congrès ultra divisé politiquement. Le texte devra désormais être soumis au vote de la Chambre des représentants, où son avenir est plus incertain, car des tiraillements ont émergé au sein de l'étroite majorité démocrate entre l'aile gauche et les centristes. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, a annoncé ce mardi sa démission, une semaine après un rapport accablant sur l'affaire. Étant donné les circonstances, la meilleure manière de vous aider est de me retirer, a déclaré Andrew Cuomo, qui a aussi présenté ses profondes excuses. En Afghanistan, les talibans avancent à un rythme effréné. Ils resserrent l'étau sur Mazar-i-Sharif, la plus grande ville du nord de l'Afghanistan. Et ce soir, ils se sont emparés de Pul-e-Kumri, à 200 km au nord de Kaboul, la capitale. Le point avec Rosine Monizero.
C'est donc la 8e capitale provinciale afghane qui vient de tomber entre les mains des talibans en seulement 5 jours. Les talibans sont maintenant dans la ville. Ils ont hissé leur drapeau sur la place centrale et au bureau du gouverneur, a raconté à l'AFP Mamour Armazai, un député de la province de Baghlan, dont Pul-e-Kumri est la capitale, précisant que les forces afghanes avaient battu en retraite. Plus tôt mardi, les talibans se sont emparés de Farah, une autre capitale provinciale dans l'ouest de l'Afghanistan. Ils contrôlent désormais 8 des 34 capitales provinciales afghanes. Depuis vendredi, ils ont pris le contrôle de Zaran, dans le sud-ouest du pays, de Sheberhan, dans le nord, fief du célèbre chef de guerre Abdul Rashid Dostum, de Kunduz, la grande ville du nord-est, ainsi que de 3 autres capitales septentrionales, Talokan, Saraipul et Aibak. Ils ont aussi continué à resserrer leur étau autour de Mazar-i-Sharif, la plus grande ville du nord. Si celle-ci venait à tomber à son tour, le gouvernement n'aurait plus aucun contrôle sur l'ensemble de cette région, pourtant traditionnellement férocement opposée aux talibans. Aujourd'hui, les talibans ont attaqué des quartiers à la périphérie immédiate de Mazar-i-Sharif, que l'Inde a invité ses ressortissants à quitter, mais ils ont été repoussés, selon un journaliste de l'AFP sur place.
Alors que les combats s'intensifient en Afghanistan, 6 États membres de l'Union européenne ont adressé une lettre à la Commission européenne lui demandant de ne pas suspendre les expulsions de migrants afghans, ont annoncé plusieurs gouvernements ce mardi. Les gouvernements belges, danois, allemands, grecs, néerlandais et autrichiens ont affirmé que les renvois de migrants afghans devraient être maintenus malgré l'appel de Kaboul à les suspendre. Le président syrien Bachar al-Assad a décrété aujourd'hui la formation d'un nouveau gouvernement dont la plupart des membres ont fait partie de l'ancienne équipe ministérielle 2 mois après sa réélection dans le pays en guerre. Au total, sur les 29 ministères, seuls 5 sont occupés par de nouvelles têtes, les ministères de l'Information, du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs, des Affaires sociales et du Travail, ainsi que de 2 ministères d'État. L'ancien ministre des Ressources hydrauliques, Hussein Anous, déjà nommé premier ministre par intérim en août 2020, a été reconduit à son poste. Le chef du renseignement américain William Burns est en visite à partir d'aujourd'hui en Israël. Dans un contexte de recrudescence des tensions entre l'État hébreu et l'Iran, le directeur de la CIA doit rencontrer le premier ministre Naftali Bennett ainsi que le nouveau chef des services de renseignement extérieur israélien, le Mossad, afin de discuter du programme nucléaire iranien et des activités de l'Iran dans la région. À présent, la Minute Éco avec John Lindon.
23 millions de dollars, c'est le montant levé en série A par Move Africa pour stimuler son investissement automobile en Afrique subsaharienne. Selon Financial Afrique, la start-up fintech de mobilité devrait mettre à profit ses fonds pour fournir un financement aux conducteurs d'Uber. Ces derniers pourront par la suite acheter des voitures dans toute la région de l'Afrique subsaharienne. Basé aux Pays-Bas, le partenaire exclusif d'Uber opère à Lagos, à et Johannesburg. La fintech compte plus de 19 000 chauffeurs utilisant sa plateforme, selon Financial Afrique. En RDC, le gouvernement a pris un arrêté annonçant une baisse des prix des billets d'avion dépassant les 40% pour les principaux trajets du réseau domestique, ceci dans le but de faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens. Cette décision, à en croire Financial Afrique, est intervenue à l'issue d'une réunion avec les transporteurs aériens et les membres de la Fédération des entreprises du Congo. Le géant américain du commerce en ligne Amazon s'engage à indemniser directement des clients victimes de produits jugés dangereux achetés à des vendeurs indépendants sur sa plateforme peu après le dépôt d'une plainte par une agence américaine de protection des consommateurs. Ces indemnisations concernent des réclamations inférieures à 1 000 $ qui représentent aujourd'hui 80% des cas de plainte.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. C'est maintenant clair, Didier Drogba n'est plus membre de l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens. L'ancien capitaine des éléphants a fait savoir sa démission de la deuxième vice-présidence de l'AFI, dont il est membre fondateur. Je viens par la présente vous annoncer qu'il y a quelques semaines, j'ai pris la décision de démissionner de mon poste de vice-président de l'AFI et par la même occasion de son comité directeur, a écrit Drogba sur Twitter. Didier Drogba poursuit en disant que l'AFI n'est pas la propriété d'une personne ou d'un groupe de personnes qui ne servent que des intérêts personnels. Depuis un an, le climat entre Drogba et l'AFI s'est détérioré lorsque l'instance présidée par Cyril Domoro a préféré accorder son parrainage à un autre candidat en vue des élections pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, indique AfriqueFoot.com. La situation a conduit à la mise en place par la FIFA d'un comité de normalisation qui restera en place jusqu'à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football prévue en novembre prochain. L'Algérie a dévoilé 3 de ses 4 représentants pour la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération 2021-2022. Sous la pression de la CAF qui veut faire le tirage au sort des tours préliminaires, la Fédération algérienne n'a pas pu attendre la fin des 38 journées de championnat et s'est décidé au bout de la 35e journée. À l'issue de cette journée disputée hier, l'actuel leader, le CR Belouizdad, et le deuxième, l'Entente Sétif, joueront donc la Ligue des champions. En Coupe CAF, par contre, ce sera la JS Saoura, troisième du championnat et le vainqueur de la finale de la Coupe de la Ligue, qui se joue ce soir entre la JS Kabylie et le NC Magra. Transfert sur le continent, le Raja de Casablanca continue de perdre ses joueurs cadres. Soufiane Raimi annonce son départ du club sur Ariadia. Il est temps de m'en aller. Soutient l'international marocain, meilleur buteur et meilleur joueur du CHAN 2020. Il rejoindra le club d'Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Avant Soufiane Raimi, c'est l'international congolais Ben Malango qui a quitté le Raja Casablanca pour signer à Sraj FC, toujours aux Émirats Arabes Unis. L'info du jour, c'est bien sûr du côté du Paris Saint-Germain. Lionel Messi a atterri ce mardi à Paris où l'Argentin, vêtu d'un t-shirt « Ici, c'est Paris », a salué les centaines de supporters qui l'ont acclamé. Le PSG a célébré son arrivée avec une vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l'attaquant, comme ses 6 ballons d'or et le drapeau argentin placé entre les maillots de Neymar et Kylian Mbappé. Justement, le Brésilien a salué l'arrivée au Paris Saint-Germain de son ancien complice de l'attaque du FC Barcelone. De nouveau réunis, a-t-il écrit sur Instagram. Entre 2013 et 2017, les deux joueurs ont formé aux côtés de l'Uruguayen Luis Suarez l'une des attaques les plus redoutables de l'histoire du football. Ils seront associés cette saison dans un trio tout aussi impressionnant si Kylian Mbappé reste au PSG, bien sûr. Lionel Messi va être présenté à la presse demain.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Le Burkina Faso vient d'ouvrir ses premiers procès à l'encontre des djihadistes qui endeuillent le pays avec de multiples attentats. Le 5 juin dernier, l'attaque la plus meurtrière de l'année, perpétrée contre le village de Solane, avait fait 132 morts selon les autorités, suscitant colère et angoisse. Deux individus ont été arrêtés à la suite d'une enquête ouverte par le parquet antiterroriste. Quel impact ces procès peuvent-ils avoir sur la population et sur la lutte contre le terrorisme au Burkina et même au Sahel? Pour une analyse, Nani Talani a joint en France Sédi Kabak, journaliste et analyste des questions africaines, particulièrement celles du Sahel.
Des combattants djihadistes pris sur les différents théâtres d'opération des forces de défense et de sécurité du Burkina, ou des personnes qui sont suspectées de complicité pour avoir apporté un soutien logistique ou un soutien en renseignement à des groupes terroristes. Ce sont ces personnes-là qui, au terme d'une longue instruction, vont être jugées par les différentes juridictions spécialisées du Burkina en matière de répression du terrorisme.
Que peut-on attendre de ces procès?
Ces procès marquent une étape importante parce que jusqu'ici, la lutte contre le terrorisme était plutôt dans sa dimension sécuritaire et militaire. Là, on rentre dans la judiciarisation, c'est-à-dire que de nouvelles lois qui ont été adoptées pour la lutte contre le terrorisme, la spécialisation des magistrats devient totalement opérationnelle. On va passer, on franchit une étape dans la lutte contre le terrorisme parce que, comme vous savez, on a les différents pays de la sous-région ont été critiqués pour leur absence de justice, leur absence de respect des droits de l'homme. Là, en faisant, en judiciarisant la répression du terrorisme, on franchit une étape. On devient plus respectueux des lois, on se donne des lois, on fait différemment des terroristes. Là, on rentre dans une où les gens vont être jugés avec des droits de la défense, avec des garanties pour leur défense, avec des avocats qui vont les assister. Ça donne une dimension, ça crédibilise la lutte contre le terrorisme dans la sous-région et ça met en confiance aussi certains partenaires qui, jusqu'ici, critiquer les exécutions sommaires ou les emprisonnements sur de longues durées sans que les personnes soient jugées. Je pense que ça, c'est une étape importante et ça donne une dimension pédagogique. Ça complète l'arsenal répressif parce que en montrant aux gens que s'ils commettent des actes terroristes, ils peuvent être jugés, ils peuvent être détenus pendant de longues périodes. Je pense que c'est un travail utile et complémentaire à ce qui a été jusqu'ici fait dans la lutte contre le terrorisme, dans la souris.
Ces procès, quel impact pourrait-il avoir sur la population?
D'abord, le message à l'intention de ceux qui peuvent être tentés de rejoindre le groupe djihadiste en disant qu'ils seront tenus pour responsables, qu'ils seront jugés, condamnés et vont être sans doute à de lourdes peines parce que les peines prévues en matière de terrorisme sont longues, mais aussi vis-à-vis de la population en montrant aux populations que l'État est conscient de leur protection et en plus de la répression, en plus de l'engagement de l'équipement des forces à moyens logistiques, moyens aériens, il y a un national judiciaire, il y a un national juridique qui est mis en place pour lutter contre le terrorisme. Je pense que c'est quelque chose de rassurant envers les populations, surtout si on prend en compte le fait que jusqu'ici, la répression de tout militaire et sécuritaire n'a pas encore donné tous les résultats en associant la dimension justice, la dimension démocratie, parce que qui dit justice, une justice indépendante rendue, qui aussi démocratie. Et ça, ça fait partie du paquet qui va permettre d'éradiquer le terrorisme. Et c'est, à mon avis, c'est quelque chose qui est de nature à rassurer les populations en leur montrant qu'on judiciarise désormais le fait terroriste.
Sédic Abba, journaliste et analyste des questions africaine. Le Mali est toujours à la traîne en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes en situation de handicap, malgré les nombreux traités et conventions ratifiées en leur faveur. Ces personnes vivent dans des conditions difficiles, notamment les femmes qui représentent 8% des personnes vivant avec un handicap. Et pour ne pas arranger les choses, elles font l'objet de discriminations sociales. De Bamako, la correspondance de Mariam Kouyaté.
Selon les statistiques de l'OMS, 15% des 20 millions de Maliens vivent avec un handicap et 8% sont des femmes. Malgré les efforts faits jusque-là, les personnes vivant avec un handicap sont toujours confrontées à des problèmes dans la société malienne. Les femmes souffrent encore plus que les hommes. Atouma Gakou est la présidente de l'Association malienne des femmes handicapées.
Les femmes handicapées vivent pratiquement les mêmes difficultés que les autres femmes, mais il y a un plus. Si je dis il y a un plus, parce qu'il y a les stigmations, il y a la marginalisation. La plupart sont dans les zones rurales où il n'y a ni infrastructure adéquate, ni de commodités. Parce que si tu es fille handicapée ou femme handicapée, tu es obligée de faire ton ménage toi-même. Donc la situation est très difficile. Elles sont méprisées dans le service.
Doumbia est diplômée sans emploi. Depuis 5 ans, elle peine à décrocher un emploi à cause de son handicap moteur.
J'ai fait électromécanique. J'ai aussi fait le CAP en électricité. Malgré ces diplômes, je n'ai pas encore eu de boulot. Les gens me jugent par mon physique et non par mes connaissances. Dans notre société ici, c'est l'apparence qui compte le plus.
Oumou Koulibaly, elle se débrouille dans la fabrication du savon noir. Elle est également handicapée moteur. J'évolue dans une petite entreprise de savon noir. Je suis handicapée, je le sais, mais j'ai toutes mes facultés mentales. Avec mon business, j'ai frappé à toutes les portes pour pouvoir faire évoluer mon entreprise. Mais hélas, nous sommes considérés comme des personnes à moitié. Il y a aussi le problème du mariage, car dans la société malienne, le mariage est fondamental dans la société et pour de nombreuses femmes vivant avec un handicap, c'est un rêve difficile à réaliser. Awa Sissoko, mère de 3 enfants encore célibataires.
Vraiment, très difficile pour nous de se marier. Certains parents nous voient comme des malédictions. Beaucoup refusent que leurs fils nous marient. D'autres prétendent qu'on leur fera des enfants infirmes. Les hommes préfèrent juste coucher avec nous pour leur plaisir. Sinon, le mariage, on n'en parle pas.
Bien que l'État malien fournisse certains efforts afin d'améliorer la condition des personnes en situation de handicap au Mali, avec des subventions et les réalisations de projets, il reste d'énormes défis à relever que les personnes en situation de handicap souhaitent pour améliorer leur quotidien. Mariam Kouyati Bamako pour la VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les communautés des Pygmées manquent d'informations sur le COVID-19, notamment sur la campagne de vaccination qui a cours dans le pays. Les leaders des peuples autochtones déplorent le fait que les autorités ne les associent pas directement dans la sensibilisation en direction de leur population. Le reportage de notre correspondant Arsène Séverin dans le village de Péké, dans le nord du Congo-Brazzaville.
Au village Péké, où la communauté autochtone dispose d'un quartier spécial, les Pygmées restent dans la confusion. Et l'application des mesures barrières, c'est seulement quand ils se rendent à Ouesso, la capitale départementale située à 5 km, ou pour éviter la répression de la police. Paul Hassan, un leader communautaire pygmée, explique.
Nous avons l'information parce qu'il y avait des policiers qui arrêtaient des gens ici, donc c'est obligatoire. Quand on sort dans la ville, quand même, on porte ça. Mais il y a ceux qui ignorent encore, qui ignorent que la maladie n'existe pas. Bon, la réaction du membre de la communauté, il y a des gens qui boudaient. Parce qu'il y a ceux qui disent que le vaccin là, c'est tout justement pour maudire des gens. Il y a des gens qui disent que ce sont des urines, des autorités.
Un autre habitant de Péké ajoute.
Nous avons entendu parler du coronavirus et pour nous protéger sur la route de Ouesso, nous mettons le masque. On nous avait dit qu'il fallait utiliser le masque pour se protéger. Nous avons aussi besoin de nous faire vacciner, mais nous ne savons pas où prendre le vaccin. Il y a certains parmi nous qui n'en veulent pas.
La communauté a déjà entendu parler du vaccin anti-Covid. Jacqueline Apikou, une mère pygmée du village Péké, dit ici ce qu'elle a compris de la sensibilisation par les autorités.
Nous ne pouvons pas refuser le vaccin, même si ce n'est pas le coronavirus. Le vaccin peut nous protéger contre certaines maladies comme le paludisme. C'est vrai qu'un monsieur est venu nous dire ici au village que le jour où il a pris son vaccin, il est resté en érection toute la journée. Et si tu prenais l'alcool, tu mourrais.
À Brazzaville, où se trouve la direction du réseau national des populations autochtones du Congo, RENAPAC, les bonnes informations sur la COVID-19 parviennent difficilement. Jean Ganga, le président du RENAPAC, appelle le gouvernement à la collaboration.
Même ceux qui sont en ville, il y a ceux qui en croient, ceux qui ne croient pas. Et combien de fois eux qui, parfois même, n'ont même pas encore entendu parler de ça. Alors, vous allez lui amener une aiguille pour le piquer, il va dire quoi. C'est tout ça. Donc il faut une bonne sensibilisation.
Environ 10% de la population du Congo-Brazzaville sont des peuples autochtones. Nombreux vivent encore au cœur des forêts, loin des systèmes d'information modernes. Dans le nord, les pygmées sont actuellement occupés à la collecte des chenilles. De retour de Péké à Ouesso, Arsène Séverin, VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'industrie minière est l'un des piliers de l'économie sud-africaine, mais la main-d'œuvre dans ce secteur reste essentiellement masculine. Une situation qu'une organisation regroupant des femmes veut changer. Women in Mining South Africa tente d'aider les jeunes femmes à se lancer dans le domaine. Linda Jivtash a réalisé ce reportage pour la VOA à Johannesburg. Le récit est signé Jacques Aristide.
Bayle Sebetlele est géologue, employée par la compagnie minière Harmony Gold Mining. Pour la jeune femme de 29 ans, il s'agit d'un choix de carrière tout à fait en harmonie avec ce qu'elle a toujours aimé, les sciences et la recherche. Les femmes représentent moins de 15% de la main-d'œuvre minière sud-africaine, une situation qui ne facilite pas leur intégration dans cette industrie. Bayle se souvient d'un jour particulier.
Je devais descendre dans une mine souterraine pour faire le boulot. Pour moi, il y avait cet homme qui n'arrêtait pas de me dire ceci. Non, non, Bayle, nous n'allons pas t'écouter. Tu es si jeune que tu peux être ma fille ou ma petite-fille et je ne vais pas t'écouter.
Après 6 ans de carrière, Bayle croit avoir établi des liens de confiance avec ses collègues masculins. Elle est d'avis toutefois que son parcours, parsemé d'embûches, aurait pu être différent avec un soutien approprié. C'est la raison d'être de l'organisation à but non lucratif Women in Mining South Africa. Cette année, l'ONG a donné le coup d'envoi à un programme au profit de 42 jeunes femmes, dont Bayle, avec pour objectif de les épauler dans leur métier. Raksha Naidu est l'une des responsables de Women in Mining.
Je pense que dans ces secteurs dominés par les hommes, le chemin peut s'avérer très solitaire pour les femmes et sans soutien ou conseil, elles peuvent jeter l'éponge très rapidement. Donc il y avait certainement ce besoin de les guider et de les soutenir.
L'interdiction du travail des femmes dans les mines sud-africaines n'a été levée qu'en 1996. L'organisme Minerals Council South Africa a mené une enquête sur les conditions de travail des femmes dans l'industrie minière. Toute la Balfour et de ce conseil des minéraux.
Les conclusions sont généralement positives, mais il y a des problèmes qui persistent, comme le manque de toilettes et d'équipements de protection individuelle qui conviennent aux femmes.
Le Conseil des minéraux affirme que les compagnies minières sont en train de prendre des mesures pour assurer la sécurité et le confort des femmes au travail. Quant à l'ONG Women in Mining, elle veut également accroître le nombre de femmes dans l'industrie minière. Elle dissémine les informations aux plus jeunes et entraîne notamment aux nombreux emplois dans le domaine. Pour Bayle, l'aide qu'elle reçoit pour relever les défis au quotidien fait une différence au travail. Elle voit plus haut et se réjouit de l'arrivée davantage de femmes dans son domaine.
À notre siège social, des femmes comptent parmi les nouvelles nominations. Des femmes commencent à occuper des postes stratégiques. Vous voyez de jeunes femmes débarquer. Je pense que n'importe quelle jeune femme peut le faire avec les bons conseils et avec le bon état d'esprit.
L'ONG Women in Mining a étendu son programme. Elle tente maintenant d'accompagner les femmes à mi-carrière qui veulent gravir les échelons dans l'industrie minière.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente